Europe 1, en balade avec Philippe Tesson, Frédéric Taddeï.
Bonjour, bon dimanche, journaliste, patron de presse, critique théâtrale et maintenant propriétaire d'un théâtre à Paris. Cela fait 60 ans que Philippe Tesson habite le paysage médiatique français. L'enfant de Vassigny, petit village du Nord, près de la frontière belge, est devenu un vrai Parisien. C'est même une figure du tout Paris. Il nous a donné rendez-vous dans son bureau, rue des Saints-Pères, à Saint-Germain-des-Prés.
Europe 1, en balade avec Philippe Tesson, Frédéric Taddeï.
Nous voilà donc dans le bureau de Philippe Tesson. Bonjour Philippe.
Bonjour Frédéric.
De nous emmener en balade avec vous aujourd'hui. C'est très beau chez vous, des meubles laqués noirs, un tableau de Charles Maton juste derrière vous, une moquette violette, très archevêque, des piles de journaux. Vous lisez tous les quotidiens, tous les news magazines.
Je suis journaliste, je vous le répète.
Oui, je sais bien.
Enfin, notamment. Donc, je lis les journaux par fonction.
Et vous les conservez.
Par
voilà obligation. Une pile de quotidiens.
Je conserve Le Monde, lui dont on dit que c'est le meilleur témoin de l'actualité. Ce qui reste à voir, mais enfin, c'est quand même un peu meilleur que le reste.
Et vous le consultez encore, parce que là, c'est une pile, vous savez, qui est Internet.
Je n'ai
maintenant.
Pas d'Internet, ni d'appareil comme ça, comme vous avez dans les poches, sur mon bureau. Je suis de la vieille culture, je ne cesserai de le répéter. Ça peut être le thème central de notre conversation si elle dure un moment.
Ah oui, oui, voilà. On peut. Mais par exemple, si vous cherchez un article que vous avez lu dans Le Monde il y a 3 mois, vous arriverez à le retrouver là,
dans
cette pile.
Je suis de la vieille culture, donc j'ai de la mémoire. J'ai une mémoire qui va jusqu'à l'enfance.
Et vous avez toujours le sourire, Philippe Tesson. C'est bizarre pour un critique théâtral. Normalement, on les imagine toujours faisant la gueule. Vous, non.
Non, mais j'ai une bonne nature, je suis indulgent, je suis tolérant. Et voilà. C'est vraiment naturel. Enfant, j'étais un joyeux. Déjà,
ouais,
enfant,
déjà
j'étais un enfant joyeux. je trouve l'époque extrêmement triste, la société humaine extrêmement triste. Regardez encore un pompier qui passe ouais. Au secours d'une veuve qui se suicide.
Non. C'est comme ça que vous voyez le monde aujourd'hui.
Je n'ai pas cette nature-là. Je ne suis pas comme vous.
Non.
Moi, j'ai toujours trouvé. Si on peut parler un peu de vous.
Oui, oui.
Je vous ai toujours trouvé. Il y a quelque chose de dostoïevskien chez vous.
Oui, les possédés ou les démons, plus.
Vous avez souvent l'air désagréable. Moi, jamais. Je suis démagogue.
Aujourd'hui, vous dirigez un théâtre, le théâtre de Poche-Montparnasse. On va aller le voir tout à l'heure. Une maison d'édition théâtrale et sa revue, l'avant-scène. Une librairie théâtrale, le coupe-papier, qui se trouve rue de l'Odéon. Le théâtre aujourd'hui.
Il n'y a pas que ça.
Oui.
J'ai encore une vague activité de journaliste de temps en temps. Dans des petites chaînes ou dans des chaînes d'information.
Continuez de donner votre avis sur tout.
Dès qu'on me le demande, je suis présent. Souvent à la télévision, souvent au téléphone. J'aime beaucoup l'immédiateté. Ouais. Je suis un journaliste quotidien.
Ouais.
Je suis pas l'écrivain. Hein.
Non.
Ça, si vous voulez, on peut en parler très longuement. Vous pouvez me demander pourquoi je ne suis pas un écrivain.
Non, bah donc vous êtes un journaliste. Vous n'avez pas de raison.
Non,
mais écrivain. Faut pas tout confondre.
Non, mais c'est pas suffisant comme réponse.
C'est vrai que tous les journalistes se veulent écrivains.
Pourquoi je ne suis pas un écrivain? Vous ne m'avez pas posé la question.
Je vous la pose, mais je connais la réponse. Vous allez me dire que vous n'avez pas assez de talent pour être un grand écrivain.
Non, pas du tout, au contraire. J'ai trop de talent. J'ai trop de talent. Mais pour être même un grand écrivain.
Mais je trouve que ce n'est pas le même métier, journaliste et écrivain.
C'est déjà mieux. Il y a une autre réponse.
Allez, je vous la laisse.
J'ai une philosophie personnelle. J'ai le culte de l'éphémère.
Ouais.
J'ai décidé à l'adolescence de vivre dans l'éphémère.
D'où le théâtre.
De tout. D'où les choses qui vont vite, dont le changement, dont la rapidité, la vivacité. Voilà, je passe d'une chose à l'autre avec une facilité absolument extraordinaire, ce qui fait dire aux gens que je suis superficiel, qui est profondément vrai, mais on peut aussi appeler ça le culte de l'éphémère. C'est également extrêmement vrai.
Gong, 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 gong.
TDI se balade avec Philippe Tesson sur Europe 1.
Gong, 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 gong.
Vous êtes né, et vous avez grandi entre les deux guerres à Wassigny. On dit Wassigny ou Wassigny ?
On dit rien, personne ne connaît.
C'est un petit village de... Quoi, il y a 1000 habitants près de la frontière belge.
Vous tombez juste, il y a 1000 habitants. Ouais. Il y a toujours eu 1000, il y en a encore 1000, mais personne ne passe par là, il n'y a pas d'autoroute.
Vous y retournez de temps en temps maintenant que vous êtes un Parisien
Non, mais j'ai l'air pas sérieux, mais c'est une attitude. En fait, j'y retourne très souvent parce que je suis très attaché et profondément dépendant de ma terre. Ouais. J'adore le Nord, j'adore le peuple du Nord, j'adore le ciel du Nord, j'adore l'univers du Nord, j'adore mon enfance. J'adore ma terre, je ne peux pas m'en passer.
Vous viennent ces yeux bleus persans
De là, ouais, ethnique, c'est là. Je suis du Nord ethniquement. Ouais. Voilà, tout le monde a les yeux bleus dans ma famille, donc il a bien fallu que je fasse comme les autres. J'ai un problème avec... J'aime beaucoup le Sud, comme tous les cons, mais j'ai un problème quand même avec...
Trop de soleil,
trop... Il y a trop de cailloux. J'aime beaucoup l'herbe. J'aime beaucoup le vert, la fraîcheur, j'aime beaucoup le froid, j'aime beaucoup le gris. Je suis né, mon village dont je viens de parler, je vais vous dire, parce que ça, c'est intéressant. C'est la ville de Matisse.
Ah oui ?
Si vous qui êtes quand même plutôt cultivé, vu le niveau général de la télévision française, vous voyez qui est Matisse.
Oui, Henri, le peintre.
Vous savez, on vous demanderait où est née la petite ville où il est né, vous diriez quoi ?
Je ne dirais rien, je ne sais pas. Pour moi, il est né à Saint-Tropez quand il a peint Luxe, non. Calme et Volupté.
Oui, vous le prenez un peu tard.
Sa période
moi, Matisse. Je le prends à la naissance. Oui. C'est le Cateau Cambrésis. C'est à côté du village qui m'a vu naître. Matisse a vécu 25 ans, un peu avant moi, dans la grisaille, dans le ciel bas de Bernano. C'est vraiment ce pays-là, mon pays. Et c'est ça que j'aime, hein, parce que c'est profond. Il a vécu là, dans une terre qui est assez proche de celle où vécu tous les grands peintres flamands du XVIIe.
D'où les couleurs après, la période fauve.
Et tout comme les... Il est cultivé. D'où la conversion à la lumière, vous savez, avait environ 25 ans, comme avaient fait tous les peintres flamands du 17e. Et alors, c'est intéressant, mais c'est une conversion, c'est assez amusant. Personne ne l'a dit avant moi. C'est très curieux parce qu'il est arrivé dans le Midi et il est devenu le peintre du soleil, de la lumière ardente, le ciel bleu de Matisse, tout le monde connaît ça. Mais je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a toujours une persienne. C'est pas con, hein, ce que je dis. Il y a toujours une persienne. C'est pas, vous voyez, il y a toujours une protection contre...
Il se réfugie quelque part.
C'est fou, hein, c'est marrant.
Ben nous, si ça ne vous dérange pas, on va aller au grand soleil, parce qu'il fait très très beau aujourd'hui.
Bon, on pourrait peut-être rester ici.
Non, vous plaisantez. Profitez du soleil, vous êtes tout bronzé. On se retrouve dans un instant avec Philippe Tesson dans la rue. Nous partons en balade.
Europe 1, en balade avec Philippe Tesson.
C'est avec Philippe Tesson que Frédéric Taddeï se balade aujourd'hui. L'occasion pour le journaliste de revenir sur son arrivée à Paris.
Nous voilà avec Philippe Tesson, donc dans la rue des Saints-Pères. On sort de votre bureau. Vous vous souvenez de votre arrivée à Paris ? Vous aviez quel âge à l'époque ?
Comme mon pays était désert sur le plan culturel et éducatif notamment, mes parents m'ont envoyé à Paris comme pensionnaire à l'âge de 10 ans, ce qui est très dur. Enfin, c'est pas de ça qu'on parle. C'est très, très difficile à vivre. Donc, à 10 ans, je suis venu avant la guerre. On est en 1938. On m'a mis en 6e dans un collège comme pensionnaire à Stanislas. J'y suis resté pendant toute mon enfance et même au-delà de mon enfance.
Et le souvenir que vous avez conservé de Paris à cette époque-là, quel effet ça vous a fait ?
Inexistant, j'étais pensionnaire.
Ah oui, on voit rien.
J'ai un souvenir, j'ai le souvenir de Paris comme d'un exil. Ouais. Je ne suis jamais sorti sauf. Une heure par dimanche au jardin de Luxembourg, je ne suis jamais sorti de la prison de Stanislas, enfin une prison que j'ai vécue. D'ailleurs, il ne faut pas exagérer. C'était avant la guerre et après pendant les premières années de la guerre, j'ai été rapatrié dans mon pays, dans un petit collège au Cateau Cambrésis, comme je disais tout à l'heure. Et puis après, pendant la guerre, je suis revenu à Stanislas, où je suis resté pensionnaire. Alors, mon souvenir de Paris est complètement attaché à la guerre, au contexte historique, comme d'ailleurs, pas seulement ce souvenir-là, mais tous mes souvenirs d'enfance, d'adolescence, et même tous mes souvenirs de vie, je les rapporte d'une façon... objectif, ils se rapportent d'eux-mêmes à la guerre. La guerre a eu sur moi, sur ma construction personnelle, si je puis dire, une influence considérable.
Et sur le nord aussi, le et nord de la France.
Absolument.
Moi, à chaque fois que j'y vais, je me promène dans les cimetières militaires qui datent de la Première Guerre mondiale, qui sont des mausolées extraordinaires.
Oui,
j'ai l'impression qu'on ne peut pas avoir grandi dans le nord, surtout à cette époque, sans en avoir été marqué, non ?
C'est très juste, je suis très, très sensible à ce que vous dites là, d'autant plus que vous êtes un homme du sud. C'est d'ailleurs une des raisons, peut-être, c'est parce que vous êtes un homme du soleil, je pense.
Non, je suis né à Paris, moi.
Oui, mais en fait...
Vous je porte êtes... un nom italien, mais...
oui, mais vous êtes... historiquement et génétiquement, vous êtes forcément, à mes yeux, un homme du sud.
Oui, sans doute. Sans doute.
Oui, bien sûr.
Europe 1, en balade avec Philippe Tesson.
Alors là, vous voyez, on est rue du Dragon, là.
Oui.
Je me permets de le préciser. Et là, j'ai les bureaux de l'avant-scène.
Ah, donc l'avant-scène théâtre.
Et si vous regardez l'immeuble d'en face, attendez, on va regarder si vous voulez. On n'est pas à la télé, mais quand même, là, vous pouvez lire. Regardez ouais. Ce qui est écrit.
Ah, Victor Hugo habitait cette maison en 1821. Vous savez que depuis que je fais cette émission et que je me promène dans tout Paris, je vois des endroits où Victor Hugo habitait à peu près partout.
Ça, c'est vrai. Il a habité en plus d'endroits encore qu'il n'a écrit de livres.
Oui,
mais Edith, ma passion pour le théâtre, elle vient de l'enfance.
Ah oui, déjà dans ce petit village.
Oui, enfin l'enfance familiale, hein, si, ouais. Elle ne vient pas du paysage du Nord encore, pourquoi pas. Non, parce que j'avais une mère qui avait un tempérament théâtral et qui théâtralisait beaucoup les épisodes de sa vie. Et ça m'a beaucoup impressionné et j'ai suivi son exemple. Je ne suis jamais que le fils de ma mère.
Et la politique, parce que tu sais, si la politique vous a passionné, que vous avez commencé, vous étiez secrétaire au débat parlementaire à l'Assemblée nationale.
Je faisais le compte rendu analytique.
Voilà, c'est ça. Donc vous tapiez les débats parlementaires sous la 4e République, hein, à l'époque.
Oui,
au début de la 5e aussi.
Ils étaient de qualité, hein.
Oui, sans doute. Mais ça a dû vous. C'est ça qui vous a mordu à la politique.
Non, c'est l'histoire.
Hein
oui, le théâtre, c'est ma mère, si je puis dire. Et c'est la guerre. J'ai vécu une enfance qui était complètement dominée, déterminée par la guerre, par ce qu'elle faisait vivre, par les épisodes de la vie quotidienne, l'occupation que j'ai vécue. Comme de 10 à 14 ans, de 12 à 15 ans, 16 ans, 17 ans, j'ai vécu physiquement l'occupation. J'ai eu la chance, ma famille a eu la chance de ne pas être victime des exactions commises à l'époque par l'occupant et par le reste. Et voilà, mais c'était la guerre avec une référence constante, un père prisonnier par exemple, vous voyez ce que je veux dire ? Ouais. Une référence constante à la guerre. Je suis né 10 ans après le traité de Versailles et 10 ans avant
les accords de Munich.
Même pas d'ailleurs. Mais c'est juste au milieu de ces deux événements considérables, donc bercés dans l'oreille et dans le cœur et dans l'intelligence et bercés par le récit d'une guerre et l'angoisse d'une guerre dont on savait qu'elle allait survenir.
Donc, la politique, pour vous,
Après ça, on ne s'intéresse pas à la politique, c'est qu'on est demeuré. Voilà. Et on se distrait avec le théâtre qu'on hérite de sa mère. Et la boucle est bouclée, le tour est joué.
On se retrouve dans un instant avec Philippe Tesson.
Europe 1, en balade avec Philippe Tesson.
Jusqu'à midi et demi, Frédéric Taddeï vous emmène découvrir le Paris du journaliste Philippe Tesson et on les rejoint tout de suite dans le 6e arrondissement.
Nous cheminons rue du Dragon avec Philippe Tesson. On va aller prendre un taxi pour se rendre à Montparnasse. Vous avez été le jeune rédacteur en chef de Combat pendant 15 ans, hein, de 1960 à 1974. Le journal à l'époque était un opposant au général de Gaulle. Comment c'était d'être dans l'opposition au général de Gaulle quand on est journaliste à l'époque, Philippe Tesson ? Ça ne devait pas être de tout repos.
Je voudrais préciser une chose, s'agissant en tout cas de Combat. Il y avait, comme il y a toutes sortes d'oppositions à quoi que ce soit, il y a toutes sortes de natures d'opposition au général de Gaulle à l'époque. Je suis obligé d'apporter, excusez-moi, ce correctif à ce que vous me dites. Enfin, c'est normal, parce que la question imposait la réponse. Le Combat n'a été hostile au général de Gaulle que sur un point précis.
L'Algérie.
très important, certes, très important, mais c'était également très important de réduire la nature de cette opposition, n'est-ce pas ? C'était circonstanciel. C'était, comme vous dites, à l'Algérie, plus exactement à la colonisation. Nous étions très réservés sur ce sujet. Nous n'étions pas les seuls. Je ne veux pas polémiquer, encore que la polémique souvent permet d'être très précis dans l'affirmation ou dans l'analyse. Je n'ai fait, à l'époque, que suivre François Mitterrand.
Qui était pour que l'Algérie reste française.
Il faut quand même cesser d'idolâtrer Mitterrand au point d'avoir complètement oublié qu'il était très profondément hostile à la colonisation.
La décolonisation.
Voilà.
Mais moi, ce qui m'amusait, c'était, j'ai l'impression que vous avez, à l'époque, quand on dirigeait un journal d'opposition, on passait quand même son temps à la 17e chambre correctionnelle. On avait constamment des procès. 32, voilà.
J'ai eu
32. Offense à au chef de l'État.
32.
Des choses qui ne se font plus aujourd'hui.
Tous jugés par le même juge qui était Madame Rosès, qui était très célèbre à l'époque. Président de la 17e chambre correctionnelle. Et j'ai eu 32 fois une condamnation à 2000 francs d'amende. C'était des francs. C'était 2000 francs. C'était le tarif. Et c'était toujours pour offense au chef de l'État.
En juin 68, vous êtes présenté aux élections, à l'époque, dans le quartier, je crois. Hein.
Là.
Oui, aux législatives.
Là, chers électeurs, juste chers électrices. D'ailleurs, regardez, ils sont tous aux fenêtres.
Juste après mai 68.
Je connais toutes les concierges du...
Alors, ce qui est drôle, c'est que vous étiez à la fois soutenu par Maurice Clavel, qui était très à gauche, et par Jacques Izorni, l'ancien avocat de Pétain.
Et Marcy Lassy. Voilà. Ils étaient tous les trois.
Et je crois qu'il y avait Devedjian.
Ça, c'était mes hommes de main.
Voilà.
C'était des jeunes gens qui
votre
étaient
équipe de campagne.
Qui était à Sciences Po, en général, qui était plutôt à droite, mais enfin encore...
Très à droite à l'époque, il y avait Madeleine, Longueux, mais c'est pas grave. Hein.
Bon là encore, je sais que vous êtes très jeune et vous n'avez pas la même culture.
Non, vous savez que je suis très tolérant.
Voilà. Non mais il ne faut pas confondre, je ne suis pas le fasciste que vous donnez à l'électeur innocent l'impression que je suis.
Nullement, c'était nullement dans mon attention. Mais quand vous avez été le patron du quotidien de Paris que vous avez créé, qui était véritablement le journal d'opposition à François Mitterrand, que vous aviez créé sous Valéry Giscard d'Estaing d'ailleurs, qui a lutté contre l'arrivée au pouvoir de François Mitterrand, au même moment, vous étiez le patron des Nouvelles Littéraires, dont vous aviez confié la direction à Jean-François Kahn, qui lui était très pro-Mitterrand, par exemple.
Et alors
je trouve ça amusant d'avoir cette tolérance, si l'on peut dire.
Je sais que vous êtes l'avocat du diable et je sais que vous connaissez cette fois, alors là, mieux que personne, là, je vous flatte pour une fois. La réponse, c'est si quelqu'un ne comprend pas ça, ça n'est pas vous.
Non, je le comprends très bien, vous avez raison. Voilà. Mais à un moment, ça ne vous a pas emmerdé quand même, parce que vous étiez vraiment anti-mitterrandien.
J'avais été mitterrandien.
Et vous l'aviez été avant, vous avez tout...
Oui, j'avais été sous combat, j'avais eu des complaisances pour Mitterrand, notamment pour la FGDS, pour la Convention des décisions républicaines, pour des cellules de pensée proches du Parti socialiste, sans avoir été de gauche. Enfin, j'avais quand même réussi à gagner la confiance de Mitterrand. Je faisais partie de ce petit groupe de journalistes. Vous en avez connu beaucoup. Il y en a encore des vivants, comme Matzneff, qui était quand même une figure un peu caricaturale, mais qui était là. Nous avions une relation intellectuelle, affective presque. Si Mitterrand avait été capable d'affect, il serait allé jusque-là avec Mitterrand. Combien de fois ai-je déjeuné le dimanche avec lui à l'auberge de Château-Chinon? Je crois qu'il m'aimait un peu. Enfin, il me respectait. En tout cas, nous avions des échanges extrêmement intéressants.
Ce qui est drôle, c'est que son premier ministre était quand même votre ami d'enfance. C'était Pierre Mauroy.
Voilà.
Et je crois, alors, est-ce que cette histoire est vraie? Il paraît que quand Pierre Mauroy est premier ministre, il fait le club de la presse sur Europe 1 et vous titrez le lendemain dans le quotidien de Paris, Europe 1, Mauroy 0.
Oui, exactement. C'était bon.
C'était bien.
Non, mais attendez, on ne vous a pas tout dit.
Non.
C'est que nous avions l'habitude, chaque fois qu'il y avait une occasion, puisque je suis resté très lié avec lui, au moins le Nord nous unissait, j'avais pris l'habitude, à Matignon comme avant, d'aller souvent dîner avec lui. Et le soir du club de la presse d'Europe 1, on est en quelle année, 82, 83, une chose comme ça, et nous convenons de dîner à Matignon, que je le rejoigne après l'émission à Matignon. Je prends le temps de faire mon éditorial, je prends le temps de faire la manchette et j'arrive. J'arrive et je lui dis j'ai un cadeau pour toi. Il regarde et il éclate d'un rire tellement franc, tellement innocent, magnifique. Il devient tout rouge comme il faisait tout. L'émotion, il me prend dans ses bras, il en rit encore dans notre tombe. C'est vrai, c'était formidable ça.
On va prendre un taxi avec Philippe Tesson pour nous rendre à Montparnasse. Mais d'abord, puisque c'est la fin de l'été, écoutons Brigitte Bardot nous chanter à la fin de l'été.
Europe 1, en balade avec Philippe Tesson.
Tu sais, j'en ai fait des voyages, j'en ai vu d'autres plages. Je les ai oubliés. Tu sais, j'en ai vu des orages. On en voit à tout âge. À la fin de l'été, alors je voudrais bien savoir le pourquoi qui me fait rester là près de toi. La pluie ce soir. Pourtant, cette plage est la même. Je ne suis plus la même. Qu'y a-t-il de changé? Je sais. Plage et tout abandonné, et seul, je suis seule à chercher le pourquoi qui t'emporte aujourd'hui loin de moi, peut-être jamais.
C'était Brigitte Bardot qui chantait à la fin de l'été. On se retrouve dans un taxi, dans un instant, avec Philippe Tesson.
Depuis 1960, Philippe Tesson est passé par plusieurs rédactions journalistiques. Et depuis ce temps-là, beaucoup de choses ont changé. Frédéric Taddeï a décidé de revenir sur ces changements pendant leur balade dans les rues de Paris qui continue jusqu'à midi et demi sur Europe 1.
Nous sommes en voiture avec Philippe Tesson, direction Montparnasse. Philippe Tesson, est-ce que vous avez la nostalgie quand la lecture du journal était la prière quotidienne de l'homme du XXe siècle, comme disait Roland Barthes? Cette époque, on ne pouvait pas vivre sans le journal, sans l'information. Ça a beaucoup changé, hein.
Le journal ou la lecture du journal?
Les journaux ont changé parce qu'il y a moins de lecture, il y a moins de lecteurs.
Oui, pourtant il y a plus de lectures. Ça me fera beaucoup d'ailleurs, ça. On le dit peut-être assez peu. Il y a beaucoup plus de contenu aujourd'hui dans la presse quotidienne qu'il n'y en avait autrefois, surtout depuis quelques années, je trouve. En témoin, le journal dont nous parlions tout à l'heure, c'est-à-dire Le Monde, la pléthore de lectures que nous a offert le Monde pendant ses vacances. Les pages, ce qu'on appelait autrefois les pages magazines, c'est-à-dire les pages intéressantes, certes, mais hors actualité immédiate, ont été démesurées dans Le Monde cette année, dans le courant du mois d'août. Ça, c'est un problème intéressant. Ça veut dire que l'écriture des journalistes est devenue beaucoup plus discursive qu'elle est, si je puis dire, qu'autrefois. Les journalistes écrivent de plus en plus long, je trouve, c'est mon jugement.
Ils écrivent de plus en plus, parce
les journaux,
il y a de moins en moins de journalistes, alors qu'il y a toujours plus à écrire, entre la presse papier et puis le supplément Internet.
Ouais, exactement. Alors moi, forcément, j'ai un peu la nostalgie du journalisme d'autrefois. J'ai surtout la nostalgie de l'engagement du journalisme d'autrefois. J'aime beaucoup, moi, la littérature engagée de la presse. contre toute raison d'ailleurs, et puis contre l'opinion générale, l'opinion majoritaire. Je trouve indispensable le commentaire à une information.
Et puis en plus, c'est une tradition française, on est toujours plus attaché d'importance au commentaire qu'à la vérification des faits.
Voilà. Alors là, je suis servi. Là où je ne suis plus servi, c'est sur la qualité du commentaire, que je trouve de plus en plus monotone, de plus en plus conformiste.
C'est une uniformisation de la pensée.
Certainement. Il y a un manque de courage dans l'engagement. Bon, l'engagement est très bavard. Il est en général assez filandreux. Il est surtout filandreux pour des raisons morales. C'est-à-dire, le journaliste a envie de s'engager, mais il a tellement peur de le faire, il a tellement peur de déplaire à la majorité, que paradoxalement, il dit ce qu'il pense, mais il le dit sans bravoure, et le plus souvent, hélas, sans talent.
Europe 1, 11h30, en balade avec Philippe Tesson, Frédéric Taddeï.
Et le journalisme s'est paupérisé aussi, on ne s'en rend pas toujours compte. C'était très valorisant d'être journaliste quand vous avez débuté, quand vous étiez à Combat, rédacteur en chef en 1960. C'était une profession très enviée, c'était extraordinaire. Et puis en plus, on vivait... Il y avait de l'argent quoi, pour travailler dans ce domaine. Philippe Bouvard me racontait, jeune reporter à France Soir, il arrivait au Festival de Cannes, il louait un yacht. Par exemple, c'est des choses inimaginables aujourd'hui. Alors, on pouvait louer un yacht quand on allait au Festival de Cannes, mais on pouvait aller aussi au bout du monde pour couvrir une guerre ou un événement. Ce sont des choses de plus en plus difficiles aujourd'hui.
Je suis assez d'accord sur ce que vous dites là-dessus, sur ce point très précis. Je suis moins d'accord lorsque vous avez dit que le journaliste était envié, beaucoup plus envieux qu'aujourd'hui. Là-dessus, je ne suis pas d'accord. Je trouve que le statut du journaliste s'est plutôt détérioré. Le crédit, pas le statut, le crédit du journaliste s'est de plus en plus détérioré.
Oui, c'est ça, c'est ce que je dis. On est d'accord. Oui.
Nous sommes d'accord.
C'était valorisant à l'époque, ça ne l'est plus. Les journalistes ne sont plus respectés.
Absolument, mais est-ce qu'ils sont plus respectables? Ça, c'est à voir. Non, rien n'a véritablement changé. La France n'a jamais fait... L'opinion française avait eu un bon commerce avec les journalistes. Contrairement aux anglo-saxons, on le sait, ça. Donc, c'est pas une fierté. Le journaliste est quand même très méprisé. Il est très... Il n'a pas... Son crédit est tout à fait relatif. D'ailleurs, vous suivez comme moi les statistiques, les enquêtes annuelles de la Croix, elles le disent d'année en année, ça. On n'a pas de raison d'être fier d'être journaliste. Voilà.
Et vous avez eu des moments quand même, vous avez été fier de vous pendant cette longue carrière de journaliste et de patron de presse.
J'ai beaucoup aimé ça, j'ai découvert ce métier, j'ai pas de formation de journaliste, j'ai découvert par hasard quasiment, enfin j'avais un goût pour l'écriture et une vocation peut-être d'écriture, ça c'est vrai, mais j'ai découvert dans l'innocence, sans avoir beaucoup travaillé, à le devenir, simplement. Et j'ai d'abord été très étonné très très vite par l'impunité dont je jouissais, que je trouve personnellement, moi, avec le temps, de plus en plus, que je trouve excessive. Je trouve qui certainement nuit à la qualité morale de l'exercice de ce métier.
Il faudrait qu'on soit puni plus souvent pour arrêter d'en profiter.
Je parle d'impunité, je parle d'une tolérance excessive de la part de la justice et de l'opinion, d'ailleurs, peut-être. Oui, je suis... Bah, c'est sans doute un effet de la vieillesse. Mais enfin, j'attendrai plus de responsabilité de la part du journaliste lorsqu'il écrit n'importe quoi, ou lorsqu'il écrit des choses que je trouve trop injustes, trop accusées, sans apporter les preuves. Je pense notamment... Alors là, vous allez peut-être me poser la question, mais on ne va pas faire de polémique. Ça m'amuse de constater que Plenel a survécu au temps. Je trouve qu'il a bien de la chance. Je trouve qu'il a bien de la chance. Voilà. Ses détracteurs et les gens qui l'attaquent, je les trouve en général bien prudents. Ils apportent peu de réponses, s'il en est, lorsqu'il y a lieu d'en avoir.
En général, ça s'est plutôt confirmé, ce qu'annonçait Edwy Plenel dans Mediapart, notamment.
Prenons un exemple. Les récentes, qui ne sont pas encore des révélations, mais c'est tout comme à propos de l'affaire Sarkozy et de la Libye, n'ont pas donné lieu à des... alors qu'elle me semble plutôt contredire les allégations de Mediapart sur le sujet, n'ont pas donné lieu à une sorte de débat, en tout cas, oui, de réouverture d'un débat. Je trouve que, encore une fois, oui, je trouve que Pléda a de la chance. Ça viendra peut-être, mais enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Je trouve que l'impunité est quand même très... L'aveuglement, la tolérance sont vraiment très très fortes par rapport aux audaces que se permettent des journalistes. Voilà. Ça vaut ce que ça vaut, c'est mon avis.
On se retrouve dans un instant avec Philippe Tesson à la terrasse du Select.
De 11h à 12h30, vous êtes en balade sur Europe 1 et on retrouve tout de suite Frédéric Taddeï et le journaliste Philippe Tesson dans un café-brasserie bien connu du 6e arrondissement de Paris, un café où de nombreuses célébrités y sont passées.
Nous voilà attablés avec Philippe Tesson au Select, 99 boulevard de Montparnasse, un bar qui existe depuis 1923, c'était un des hauts lieux du Montparnasse de l'entre-deux-guerres. Ici étaient assis à nos places Scott Fitzgerald, Ernest Hemingway, Jean Cocteau. Vous aimez beaucoup Philippe Tesson, Jean Cocteau ou Picasso, c'était des habitués à l'époque. Hein.
J'aime beaucoup, d'ailleurs, sur les écrivains de mon époque, si je puis dire, c'est presque des contemporains.
Enfin, je pense à Cocteau parce que vous aviez fait un spectacle, Le Bœuf sur le Toit.
J'ai fait un spectacle, j'ai fait revivre au Théâtre de Poche dans un cabaret. Il y a 2-3 ans, le Bœuf sur le Toit, qui était le cabaret de Cocteau. J'ai pris beaucoup de plaisir et effectivement, ça m'a permis de venir plus souvent au Select. J'aurais beaucoup aimé faire à ce propos, d'ailleurs, vous ne l'avez pas cité. Pour moi, c'est une figure quand même essentielle du Select parce qu'il est très particulier dans toute cette zoologie bizarre. C'est Depardieu.
Gérard.
Et... J'aurais beaucoup aimé faire Depardieu. D'abord parce que le sujet Depardieu... En lui-même, Depardieu est un sujet, mais parce que la ressemblance avec Guillaume Apollinaire, que j'adore, est tellement forte à tout point de vue, physique, intellectuel, sensible, etc. Voilà. Mais oui, c'est un endroit formidable.
Depuis le temps où les habitués étaient tous la bohème fauchée de Montparnasse, aujourd'hui, le café est quand même à 3,40 euros au Select, mais le décor est le même.
Ah oui,
le décor est exactement le même.
Presque authentique. Hein, presque authentique. Oui. C'est marrant. Puis c'est à côté du Théâtre de Poche, comme le Théâtre de Poche est Montréal. Voilà,
pourquoi se priver, effectivement. Est-ce que vous qui êtes un critique théâtral depuis une éternité maintenant, vous l'avez été au Canard Enchaîné, vous l'avez été à l'Express, au Figaro Magazine, est-ce que les premières ont changé? C'est toujours aussi...
Non, un peu moins pour ce qui est du théâtre privé, un peu moins d'apparat qu'autrefois. Je veux dire à part les attributs de la vie mondaine, la vie sociale mondaine. Les grands noms de l'aristocratie ou de la pseudo-aristocratie intellectuelle, théâtrale notamment, ont un peu disparu. Enfin, Philippine Rothschild est morte. La période Rothschild est abolie, c'est fini. Bon, une espèce de distinction et d'élégance qui était souvent d'ailleurs totalement artificielle. Plus qu'artificiel et pas toujours de très bon goût, tout ça a disparu. C'est, à vrai dire, la répétition générale n'existe plus que très en pointillé. Il n'y a plus cette distinction, cette dichotomie. Le grand public vient tout de suite aux premières représentations, alors qu'autrefois, il y avait une période assez longue, de 15 jours, par exemple, entre un favoritisme. Le théâtre la pièce était réservée à une population d'années, avant que le public n'y ait droit. Puis voilà, mais à part ça, non. Je ne peux pas dire qu'il y a de véritables changements.
On ne s'habille plus. On s'habillait.
Voilà, mais on ne s'habille plus jamais pour rien. On ne s'habille pour rien.
On s'en voit plus. Moi, je me souviens, c'était les télégrammes. Les télégrammes dans les loges des chanteurs, des acteurs. Au moment de la première, ils recevaient des télégrammes. On les encourageait, on les félicitait. J'en avais parlé avec Charles Aznavour. J'avais dit qu'il avait dû recevoir des télégrammes tellement étonnants. Il m'en avait raconté un certain nombre, d'ailleurs. Et puis, tout à coup, ils n'ont plus reçu de télégrammes. Ils reçoivent des SMS, mais c'est pas pareil.
Oui, c'est très vrai, ça. C'est très vrai. Mais ce sont les formes, quoi. Voilà, ce sont des problèmes de forme qui ont évolué en même temps, au même rythme d'ailleurs et dans le même sens que tout ce qui est, tout ce qui participe de la vie sociale aujourd'hui. Voilà, tout ça est pas, en revanche, les comportements profonds, intimes et relationnels des gens qui sont intéressés par le milieu du théâtre, ça n'a pas bougé d'un pli. C'est-à-dire les rivalités, les haines, les mauvais sentiments. Quoi.
Oui, et puis les sempiternelles querelles entre théâtre public et théâtre privé. Ça aussi, ça n'a pas changé.
C'est encore un autre problème. Oui, tout à fait. Mais dans, vous voyez, écoutez, pour si on voulait porter à un jugement hiérarchique, c'est-à-dire approfondir un peu le problème, ce qu'on pourrait affirmer, c'est que... la grande transformation depuis, disons, un demi-siècle. Moi, j'ai fait ça pendant un demi-siècle. Il y a près de 60 ans que je fais de la critique. J'en ai fait chaque semaine, tout le temps. J'avais dérogé à cette règle. Ce qui a profondément changé, c'est la qualité de ce qu'on voit. C'est ça, le problème. Le vrai problème est dans la crise de la qualité du théâtre. Il y a encore des spectacles. C'est vrai, il y a encore des spectacles. Il y aura d'ailleurs toujours des spectacles. C'est ça, depuis la Grèce. Il n'y a plus un théâtre. Il n'y a... Depuis les années 50, il n'y a plus ce qu'on pourrait dire. Cette époque n'a plus son théâtre spécifique. Il n'y a plus un théâtre de notre. Il n'y a pas un théâtre de notre temps. Notre temps ne produit que des ersatz de ce qu'il a produit précédemment, de l'autre temps, de l'avant-guerre, disons.
Avec Philippe Tesson sur Europe 1.
La dernière grande époque du théâtre a été celle de l'absurde et ce qui a suivi l'absurde, c'est-à-dire
Beckett. Beckett, voilà, Beckett. UNESCO.
Et ça s'est terminé avec Duras. On pourrait dire ça, en gros, il n'y a rien de commun d'ailleurs entre UNESCO et Duras, mais je veux dire, il y a eu une recherche théâtrale, un effort de création théâtrale, une poésie théâtrale nouvelle, ça c'est vrai, à partir... depuis l'immédiate avant-guerre, Deuxième Guerre mondiale, les années 30, et puis jusqu'à les années 50. Voilà.
Après, c'est devenu le temps des metteurs en scène. Le théâtre s'est renouvelé par la mise en scène et pas par les auteurs, peut-être.
Elle avait commencé à se renouveler un peu avant la guerre, un peu plus tôt. Ça, c'est vrai, une grande révolution scénique, scénographique. Dès le début du XXe siècle, il faut en convenir. Il ne faut pas dater la grande révolution scénographique, l'apparition même de la scénographie, il ne faut pas la dater aux années d'immédiate après-guerre. C'est avant la guerre, c'est les années de la Première Guerre mondiale, on peut dire ça. Mais ce n'est pas ça vraiment que je parle. Je parle de la relation entre le théâtre et la condition humaine. Donc, c'est ça que je voudrais dire. Je ne sais pas si on me comprend. C'est le texte. C'est la révolution scénographique n'est jamais qu'une révolution importante, mais de pure forme.
Oui.
En revanche... Le rapport entre le théâtre et les questions existentielles, métaphysiques, relatives à la condition humaine, ça n'existe plus. Il n'y a plus de réponse aux angoisses. Voilà un thème. L'angoisse, l'absurdité de la vie.
Vous trouvez que la vie est absurde, vous ? Vous qui êtes si gay, vous trouvez que la vie est absurde ?
C'est pas ça que je veux dire. Je veux dire que la réponse à la question... n'a pas encore été donnée. Elle n'a pas été donnée dans une légitimité suffisante eu égard à la gravité du problème. Je veux dire par là, au moins, je n'irai pas jusqu'à dire que Camus a donné une réponse à la question, mais enfin, il a accompli un progrès. La pensée telle qu'elle est diffusée par le théâtre a connu un progrès par la grâce du théâtre de Camus. Sartre, c'est encore un autre problème. Il n'y a plus ça aujourd'hui. Il y a eu la période qu'on pourrait appeler Pinter, qui finalement traite du même problème, toutes choses égales, moins philosophiquement, mais c'est le même problème qu'explique Pinter, le même problème que celui qui est tenté d'expliquer Camus. Et aujourd'hui, il n'y a plus ça. Il n'y a plus ça. Il n'y a plus de tentative d'explication de ce problème. Il y a des ersatz, il y a des choses charmantes. Un jeune auteur comme Florian Zeller, c'est force à trouver aussi cette explication. Mais je ne dis pas qu'il échoue, mais enfin, il n'y parvient pas. Vous voyez ce que je veux dire ?
Très bien.
Le problème est ténu. Il faudrait une conversation approfondie sur ce sujet. Il n'y a même plus de conversation approfondie sur ce sujet. Il n'y a plus de...
C'est comme si on était passé à autre chose.
Voilà, on ne s'en étonne plus. Basta. Il y a d'autres problèmes. Il y a le problème du cœur, il y a le problème du sentiment et le problème du sexe. Alors là, ça marche. Mais on s'en fout. Le sexe est fait pour qu'on en jouisse. Hein, c'est vrai, entre nous, personne ne nous écoute, personne ne nous voit. Voilà. Bon, le cœur n'en parle pas. Le théâtre du sentiment fait floresse. Le problème du sentiment est sur toutes les scènes du jeune théâtre. Du théâtre privé, notamment, du théâtre, il y a 4 personnages, en général 2 femmes et 2 acteurs et 2 actrices. Le plus souvent, il n'y en a plus que 2 et non plus 4 parce que ça coûte moins cher. Parfois même, c'est allé jusqu'à des solos. Oui. Il y a de plus en plus de solos, de seuls en scène au théâtre.
Mais c'est plus facile à écrire qu'une pièce.
Absolument, c'est un signe. Et après tout, pourquoi s'emmerder avec des problèmes qui emmerdent tout le monde ? Ainsi le veut l'époque. Rigolons un peu et faisons de l'humour. Les belles recettes, ce ne sont pas des acteurs de théâtre qui les ont, ce sont des humoristes, on les appelle ainsi, c'est-à-dire des clowns. Alors je ne veux pas être méchant, il y en a qu'on aime bien, mais c'est quand même misère. C'est misère. Pour un critique de théâtre, c'est misère. Un vieux critique de théâtre comme moi, c'est désespérant. Rendez-vous compte, je vais au théâtre, moi, depuis 65, bientôt 60 ans, toutes les semaines, 3-4 fois par semaine, ce que j'ai pu voir, ce que j'ai pu apprécier. Alors, de temps en temps, vous avez une reprise, un texte fondamental, un très grand texte, dont la mise en scène peut être n'importe quoi, voire Ostermeyer, qui joue quand même Shakespeare en slip, ce que je déteste, mais je suis un vieux réac. Hein. Mais j'ai raison, j'en suis fier de ce. Et qui dit réac dit d'abord qu'on a connu autre chose. C'est quand même, pour moi, à mes yeux, qu'on ait connu autre chose que ce qu'on vit, c'est quand même un privilège extraordinaire et une légitimité est supérieure. Hein, c'est vrai, à condition qu'on ne soit vraiment con. Je ne le suis pas encore tout à fait. Voilà. Alors l'humour, ça marche. Et plus il est vulgaire, plus ça marchera. Et comptons évidemment la parité dans l'humour, qu'il y ait autant de femmes grossières et vulgaires qu'autant d'hommes. Sinon, ce serait une injustice socialement et philosophiquement inadmissible. C'est notre époque. Et, là, je commence à m'exciter. Si vous m'emmenez sur ce terrain, il n'y a plus de limite.
On retrouve Philippe Tesson juste après avoir écouté Bernard Lavilliers nous chanter Montparnasse, puisqu'on est à Montparnasse. Il y a les terrasses, il y a du monde, il fait beau. Et il y a Bernard Lavilliers.
Seul, face à face, dans la glace, je regarde les gens qui passent. C'est l'été, des gens qui rient, d'autres qui s'embrassent. C'est l'été à Montparnasse, l'été à Montparnasse. Des robes légères, des couples qui s'enlacent. Au bar de la coupole, à Montparnasse, je vais rester seul avec de la glace. À Montparnasse, je traîne mon wagon sur les terrasses. Je cherche encore madame, ces quelques traces qui inspirait Soutine, Apollinaire. Je vais passer de l'ombre à la lumière. Je vais passer de l'ombre à la lumière. Si cette nuit mes yeux brillent, je rencontre une âme seule. C'est l'été, je parle de voyage, d'autres paysages. C'est l'hiver à Buenos Aires, l'hiver à Buenos Aires. L'air est glacé, les gens séparés. Au café Margot à Buenos Aires, des Italiens qui parlent espagnol au café Margot à Buenos Aires. Je traîne mon wagon sur les terrasses, je cherche encore madame ces quelques traces qui inspiraient Borges, Neruda. Si je vous intéresse, je reste là, je traîne mon wagon sur les terrasses, je cherche encore madame ces quelques traces qui inspiraient Soutine, Apollinaire. Je vais passer de l'ombre à la lumière, je vais passer de l'ombre à la lumière, à la lumière.
C'était Montparnasse Buenos Aires, chanté par Bernard Lavillier. On se retrouve toujours en balade avec Philippe Tesson juste après ça.
Europe 1, en balade avec Philippe Tesson, Frédéric Taddeï.
Nous sommes aujourd'hui en balade avec Philippe Tesson et nous voilà au 75 boulevard du Montparnasse, devant l'entrée du théâtre de poche, ou plutôt devant l'entrée de l'impasse Robiquet, hein, qu'on appelait le cul-de-sac de Montparnasse. C'est au bout de cette impasse que se trouve le théâtre de poche, Philippe. Hein.
Exactement, c'est pas flatteur, mais c'est comme ça.
Il n'y a pas un accès à Stanislas, qui était votre collège par ici?
Oui, c'est là. Ouais. Bon, le collège où j'ai fait mes études, et j'ai
juste au bout de l'impasse. Hein.
Au bout de l'impasse. Et je me rappelle, à l'époque j'étais gamin, je me rappelle avoir fait le mur, si je puis dire, le mur de l'impasse, ouais. Pour le soir, puisque nous étions enfermés en prison dans le dortoir. Nous faisions le mur le soir, de printemps, pour aller boire des verres ou aller au Sphinx.
Stanislas, c'était un très célèbre collège. Charles de Gaulle y était,
oui,
y était élève.
Oui, oui, oui.
L'armée d'Aurevilly, le commandant Cousteau.
Oui, oui, absolument, ça ne veut rien dire. Il y a aussi des gens plus anonymes, comme moi.
Et alors donc, ici se trouve le théâtre de poche que vous avez racheté il y a 10 ans maintenant, en 2010.
Non, il y a 7-8 ans. Il y a 7-8 ans. Je l'ai rouvert il y a 6 ans et demi. Il y a 6 ans et demi.
Et alors vous, critique théâtrale, tout à coup, vous achetez un théâtre. C'est une façon de passer de l'autre côté, c'est ce qu'on dit.
Exactement, oui, c'est de faire une expérience. Oui, c'est assez classique d'ailleurs. C'est un parcours pas inédit, mais enfin,
les critiques de cinéma deviennent souvent réalisateurs. Voilà. Depuis Truffaut, Chabrol et Godard, devenu.
Et ça m'a donné beaucoup de bonheur.
Et alors, pourquoi l'appelait-on le théâtre de poche? Il est si petit que cela?
Ah, mais il est absolument minuscule. Minuscule, il y a deux théâtres. Il y a un théâtre de 120 places, et en haut, 130 places, et en bas, un petit théâtre d'une centaine de places. Qui est très apprécié par les metteurs en scène parce qu'il est très, très obscur. C'est une cave, c'est une sorte de catacombe dont la surface, dont l'organisation spatiale est telle qu'on pourrait y jouer de l'opéra, tellement il est original, dans plein de coins, de recoins. Voilà.
Alors, quand on entre dans le théâtre, on se dit le théâtre de poche, tout va être rikiki, mais pas du tout. On entre, il y a une grande pièce, il y a la caisse, il y a un bar.
Il y a un foyer.
Il y a un foyer, comme dans bar, tout théâtre qui se respecte.
Mais enfin, on ne peut pas dire qu'il y a quoi, une soixantaine de chaises. Oui, il y a effectivement.
Vous connaissez comme moi le Festival d'Avignon, où là, il y a, tout à coup, on se retrouve dans des endroits vraiment exigus.
Oui, oui. Mais c'est très important. Le foyer bar est aussi important que les salles de spectacle. Car moi, j'ai voulu faire de ce foyer-bar un espace et de le théâtraliser au maximum, c'est-à-dire faire en sorte que les gens s'y sentent très confortables, s'y sentent tassés. Oui. Une densité extraordinaire. Plus c'est dense, plus c'est chaleureux, plus c'est mystérieux, plus c'est agressif. Et
maintenant, on a poussé ça encore plus loin.
C'est dans une tension.
C'est Jean-Michel Ribes avec le théâtre du Rond-Point. Il y a le restaurant maintenant. Et maintenant, les théâtres intègrent leur restaurant.
Ici aussi.
Ouais. Oui, ici, c'est ça, ici. Ici aussi.
Mais c'est beaucoup, dans mon esprit, c'est beaucoup plus théâtral que chez Rib. Bon, moi, j'adore Rib, mais enfin, on aime bien se battre un peu tous les deux. On est assez agressifs l'un et l'autre. Et l'un contre l'autre, c'est merveilleux, c'est un partenaire de...
Et puis, il est plutôt de gauche, lui.
On en a déjà parlé de ça. Je vous ai déjà dit que votre jugement et votre appréciation, vos appréciations et vos évaluations politiques étaient approximatives. Mais enfin, je n'en fais pas.
Je fais allusion à votre quotidien.
Il y a des intelligences plus simples que d'autres, plus manichéennes.
Revenons au théâtre. Est-ce qu'il s'est passé ici des choses dans ce foyer? Est-ce que dans les foyers, il se passe des choses? Vous dites que c'est presque plus important que la scène. Ça voudrait dire qu'il est...
Des débats. Encore que j'en sois venu aux mains un jour avec Jean-Michel, dans un cabaret que je faisais dans la salle du sous-sol. Oui, la discussion a été très vive. On s'est empalé.
Emplafonné, disait-on.
Tous les deux, on en est venu aux mains.
Oui. Vous vous battez, Philippe Tetson.
J'adore, oui. Ouais. Oui, je me bats, mais fleuré, moucheté.
Souvent, les polémistes sont des bagarreurs rentrés. Ils n'osent pas faire le coup de main.
Je ne suis pas brut. Je ne suis pas brutal, non. Ouais. Je ne suis pas brutal. Je n'ai pas la musculation suffisante pour être brutal.
Est-ce que depuis que vous êtes propriétaire de théâtre, est-ce que vous regrettez certaines de vos critiques parce que vous avez eu la dent dure?
Oui.
Oui. Vous dites que vous sentez que vous avez été injuste peut-être parfois?
Oui. Et avec l'âge, je suis devenu beaucoup plus conciliant, beaucoup plus tolérant. Quand j'étais au Canard Enchaîné, il faut dire que le spectacle, je suis resté 15 ans au Canard Enchaîné. Et la nature de ce journal est m'inviter, nous inviter tous. Ah ben vous savez ça, ces choses-là. On est finalement, on se coule, on se modèle à l'image du journal auquel on appartient. C'est vrai. Ça, nous en parlions tout à l'heure. C'est cette impunité dont jouit en France
le journaliste.
Le journaliste que je déplore aujourd'hui. Voilà, c'est une.
Oui, mais enfin, on ne va pas vous sanctionner pour ça. Il se trouve qu'après, c'est vous qui le regrettez finalement.
Oui, mais ne pas le sanctionner, c'est inviter à la récidive. Et une récidive qui devient un mode, une mode et un mode, et un mode de pensée.
Imaginez si on sanctionnait tous les journalistes qui se trompent.
Non, qui vous a parlé de sanctions? Il y a des. Là encore, vous êtes très manichéen, c'est admettre ou punir. Je ne dis pas ça. Faire comprendre que c'est une question d'éducation. C'est une question d'éducation. Ça commence par l'école. Ça commence par l'éducation. Ça s'appelle la civilité. Je suis très sensible à ça. Et c'est vrai qu'un vieillard. Ou tantôt, j'allais dire une bêtise. J'allais dire un vieillard est plus tolérant. Absolument pas. Un vieillard est soit plus tolérant, soit moins tolérant. Je ne suis pas encore dans la phase de l'irascibilité. Ça va venir, mais pas encore.
Il vous reste quelques belles années.
Pour l'instant, donc, vis-à-vis du théâtre, alors que le théâtre mérite plus de sévérité qu'il n'en méritait lorsque j'étais intolérant, la qualité du théâtre a tellement baissé qu'il mériterait qu'on soit beaucoup moins tolérant que l'on est actuellement. Voilà. Je trouve qu'on est.
Vous allez m'emmener visiter ce théâtre de poche.
Ça sera vite fait.
Oui, comme son nom l'indique. On se retrouve. Ouais.
À défaut d'un long discours, il y a des choses amusantes que. Il y a un passé, ce théâtre. Il y a un passé. Moi, je l'ai repris à un couple de directeurs très âgés qui en avaient fait un endroit assez de bonne qualité entre 1945. Et l'époque où j'ai repris. Mais avant 1945, il y a un passé qui est très amusant. Il a été à des premiers théâtres où s'est produit Villard. Et il y a des notes de service, il y en a une notamment qui est quelque part sur les murs. Messieurs et madame les acteurs se sont priés de faire moins de bruit avec les instruments de toilette lorsque leurs camarades sont en train de jouer. Toutes les notes de Villard avaient trait à la, vous savez, à la bonne organisation.
Il y a Duras, du billard qui ont fait.
Après,
UNESCO a été là
après,
aussi.
Après, il y a eu du billard, oui, après la guerre, il y a eu Vitali. Il y a eu
un théâtre d'avant-garde ici.
Au billet doux, une avant-garde discrète, pas une avant-garde révolutionnaire, mais une avant-garde de qualité, ce qu'on essaie de restituer de temps en temps ici, car vous ne m'avez pas posé une question pour savoir ce qu'on joue, qu'on y joue.
Je n'ai pas besoin, je suis sûr que je vais les rencontrer ici ou là.
Oui, si vous y étiez venu souvent, vous n'auriez pas à me poser la question. D'ailleurs, vous ne me l'avez pas posé, donc vous y venez sans doute souvent.
Suffisamment.
Merci.
Frédéric Taddeï et Philippe Tesson ont décidé de s'attarder dans le théâtre de Poche, théâtre qu'a racheté le journaliste et qu'il continue de visiter jusqu'à midi et demi tout en rencontrant des comédiens.
Nous sommes dans la grande salle, hein. C'est bien la grande salle,
Philippe. C'est la moins petite, oui.
C'est la moins petite. Et il y a Maxime d'Abbeville qui est là, vieille noblesse bretonne.
Normande.
Normande, ah, pardon.
Oui, au départ.
Ah oui. Et Gérard d'Abbeville, c'est de la...
Maintenant, il est breton, quoi. Mais d'Abbeville, c'est typiquement un nom normand. Quoi.
D'accord.
Voilà, on ne peut pas faire plus normand.
Donc, Maxime d'Abbeville, Molière du comédien en 2015, pour son rôle dans The Servante, c'était ici déjà. Hein.
Oui, c'était ici.
Ici, au Théâtre de Poche à 19h, et puis enchaîné à l'époque à 21h. Je vous souviens, je vous avais reçu dans le Social Club.
Absolument.
Vous m'avez fait beaucoup rire. Vous interprétiez au même moment Chaplin au Théâtre Montparnasse, Pas loin d'ici. Mais enfin, le samedi, quand vous jouiez deux fois Chaplin, à 16h et à 21h, plus The Servante, j'avais calculé que vous étiez 5h30 sur scène.
Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais à cette émission, il y avait Olivier Py.
Oui.
Et, qui m'avait dit, et il avait dit, oui, ben, c'est rien du tout. Bon, il va être arrivé d'être 13 heures sur scène.
Hein, il faut dire que Olivier Py est l'auteur de la pièce de théâtre la plus longue de l'histoire. Je crois qu'elle
doit... Non, c'est Claudel.
C'est, oui, peut-être plutôt Claudel.
C'est plus que le soulier. Il a joué le soulier de satin, il s'en vantait. Mais je lui avais rajouté sa pièce la plus longue de l'histoire, qui fait 23 ou 24 heures. Je crois qu'il avait joué à Avignon. Vous ne l'avez pas vu, celle-ci, Philippe Tesson?
Non.
Si vous aviez vu des pièces de plus de 24 heures, vous ne seriez plus là pour en parler, il faut dire.
J'ai vu des pièces longues. J'ai vu beaucoup de pièces. Enfin, l'inextinso de la pièce de Poppy, d'Olivier Py, j'appelle Poppy. Olivier Py n'a pas été joué, que je sache, à Paris.
Et vous jouez quoi ici? Parce que ici, vous êtes là, vous êtes un abonné ici. Vous avez...
Oui, absolument. Alors là, je commence très prochainement une pièce qui va s'appeler Je ne suis pas Michel Bouquet.
Oui, je croyais que il n'était pas prévu que vous fassiez votre leçon d'histoire de France, première et deuxième partie aussi.
Je fais les leçons d'histoire de France les dimanches.
D'accord.
Donc à 14h30 la première, à 16h la seconde. Et les autres.
Un vieux spectacle, ça.
Comment,
hein. C'est un spectacle qui existe depuis un certain
temps. Absolument.
Qui a été créé ici, je crois.
Qui a été créé ici, complètement. Et les autres soirs de la semaine, du mardi au samedi, je joue donc mon nouveau spectacle, un autre spectacle seul.
Je ne suis pas Michel Bouquet.
Qui s'appelle Je ne suis pas Michel Bouquet. Et qui est en fait... enfin, le titre, c'est moi qui l'ai donné. C'est à partir d'extraits d'un livre d'entretien qu'il a donné avec Charles Berling, qui s'appelle Les Joueurs.
Et en quoi vous n'êtes pas Michel Bouquet?
Alors, non, en fait, je ne suis pas Michel Bouquet. C'est une formule. C'est une formule qui est dans le spectacle, dans ses propos. C'est-à-dire que, disons que toute sa technique de comédien, son école, consiste à, disons, disparaître au profit de l'auteur.
Une page blanche.
Au profit de l'œuvre. Exactement. C'est vraiment son école. Et donc, lui, voilà, estime qu'il se dissout complètement. Et donc, à un moment, il dit, de toute façon, moi, je n'existe pas, je ne suis rien, je ne suis pas Michel Bouquet. Et il se trouve qu'en l'occurrence, je ne suis carrément pas du tout Michel Bouquet. Parce que, en plus, je fais parler à un monsieur qui a 80 ans au moment des entretiens. Ouais. J'en ai pas 40 et je vais pas jouer un vieux monsieur. Donc, évidemment, tout c'était un double clin d'œil, en fait, le titre. Voilà, c'était une manière de créer une distance aussi avec le rôle, parce que voilà, ses propos sont très universels, bien au-delà de l'acteur.
Étant donné la fidélité de Maxime d'Abbeville, vous pouvez plus rien lui refuser, Philippe Tesson.
C'est exactement ça.
Il vous proposerait de jouer. La main de ma sœur dans la culotte d'un zouave, vous seriez obligé de lui dire oui.
Ce serait formidable dans le rôle de...
Du zouave
ou de la sœur. ou de moi, la main de ma sœur dans la culotte d'un zouave. Bon, bref, c'est trop d'humour.
Qu'est-ce que vous avez fait, de monter sur scène? Vous êtes monté sur scène ici, dans le bœuf sur le toit.
Je n'ai pas la prétention, je ne suis pas un acteur, je n'ai pas la prétention de jouer des textes écrits pour le théâtre, mais j'aime bien me montrer, c'est démonstratif, et j'aime bien faire des cabarets. Le cabaret est un compromis entre le jeu d'enfant et le théâtre stricto sensu.
Vous l'aviez vu, Maxime, quand il faisait le conteur dans Le Bœuf sur le Toit?
Et non.
Non.
Malheureusement, je n'ai pas pu le voir.
Mais enfin, là, je vais pouvoir...
J'ai vu énormément de choses ici, mais ça, je n'ai pas pu le voir. Et là, je suis content parce que je vais pouvoir voir Michel Legrand. Que j'ai pas, et parce que ça joue à 21h15 et que moi, je serai ici à 19h. Donc, il me suffit de...
C'est Michel Forever, mise en scène par Stéphane Druet.
Mise en scène par Stéphane Druet, ma fille Daphné, et avec une troupe importante de quatre chanteurs, de deux acteurs, et qui restitue le répertoire, une partie importante du répertoire de Michel Legrand, dans un scénario typique de registre du cabaret, c'est-à-dire encore une fois ce qui n'est pas vraiment une pièce, mais qui est comme un jeu, comparable au jeu d'enfant, dans la spontanéité et la fraîcheur.
Moi, j'adore Michel Legrand. D'ailleurs, cette émission est truffée de morceaux de Michel Legrand. Et on va en écouter un de plus, peut-être sa plus belle chanson, The Windmills of Your Mind, chantée dans la version originale, celle de l'affaire Thomas Crown avec Steve McQueen et Faye Dunaway. Noël Harrison, on l'écoute.
Europe 1. En balade avec Philippe Tesson.
Round like a circle in a spiral, like a wheel within a wheel, never ending or beginning on a never spinning reel, like a snowball down a mountain or a carnival balloon, like a carousel that's turning, running rings around the moon, like a clock whose hands are sweeping past the minutes of its face, and the world is like an apple whirling silently in space, like the circles that you find in the windmills of your mind, like a tunnel that you follow to a tunnel of its own, down a hollow to a cavern where the sun has never shone, like a door that keeps revolving in a half-forgotten dream, or the ripples from a pebble someone tosses in a stream, like a clock whose hands are sweeping past the minutes of its face, and the world is like an apple whirling silently in space, like the circles that you find in the windmills of your mind. Keys that jingle in your pocket, words that jangle in your head. Why did summer go so quickly? Was it something that you said? Lovers walk along the shore and leave their footprints in the sand. Is the sound of distant drumming just the fingers of your hand? Pictures hanging in a hallway and the fragment of a song. I've remembered names and faces, but to whom do they belong? When you knew that it was over, you were suddenly aware that the autumn leaves were turning to the color of her hair. A circle in a spiral, a wheel within a wheel, never ending or beginning on an ever-spinning reel, as the images unwind like the circles that you find in the windmills of your mind.
C'était Noël Harrison interprétant The Windmills of Your Mind, la chanson de Michel Legrand. On se retrouve dans un instant avec Stéphane Ruet.
Europe 1, en balade avec Philippe Tesson. Frédéric Taddeï.
La balade de Frédéric Taddeï et Philippe Tesson touche bientôt à sa fin. On les retrouve dans le théâtre de Poche, dans le 6e arrondissement de Paris, devant une scène de Michel Forever, un spectacle produit par le journaliste en hommage à Michel Legrand.
Ils arrivent à quelle heure?
Je ne sais pas. Maintenant?
Eh bien, ils attendront.
Oh oui, on n'est pas aux pièces. Oh, qu'est-ce que j'ai fait du poivrier? Ah, ah.
Stéphane Druet, vous êtes le co-auteur et le co-metteur en scène
avec Daphné Tesson.
Ouais. Avec Daphné Tesson de Michel Forever. Alors ça raconte. Bonjour Daphné. Ça raconte Michel Legrand ou ça raconte les Demoiselles de Rochefort?
Ça raconte tout le monde. Ça raconte surtout Michel Legrand et les Demoiselles de Rochefort. Mais c'est vraiment. C'est un spectacle qu'on a créé grâce à Philippe Tesson en 3 semaines.
Ah oui.
Il voulait un spectacle qui se fasse vite et bien, donc on l'a fait. On
a écrit après la mort de Michel, j'imagine.
Après la mort de Michel Legrand, et du coup, on a écrit ça très vite, on l'a répété très vite. Et en fait, le principe, c'est un journaliste stagiaire qui ne connaît pas Michel Legrand, il ne connaît rien. Et il décide de rencontrer 3 fans de Michel Legrand qui vont lui raconter, lui expliquer sa vie, lui chanter, danser, tous les moments de sa vie, tout le côté éclectique de
Michel Legrand. Alors moi, je croyais que la salle était plus petite. Vous m'aviez dit qu'elle était plus petite, celle-ci, mais elle paraît beaucoup plus grande. Il y avait des danseurs, des musiciens, c'est très large. Vous avez une place folle ici.
L'espace scénique est beaucoup plus vaste. Mais les spectateurs...
Moins nombreux, ou plus tassés.
Non, ils sont à peu près le même nombre, mais comme vous le remarquez, ils sont un peu tassés autour de tables, qui sont des petites tables.
De toute façon, le
principe scénique du poche est quand même fondé sur une valeur de proximité. Il faut qu'il y ait cette proximité. Et les acteurs adorent, les meilleurs acteurs. Je sais que vous n'aimez pas beaucoup le théâtre.
Mais
je l'ai pris dans mon humour, dans mon sac d'humour.
Je le connaissais mal.
Oui, bien sûr. Mais les acteurs sont ravis, surtout les vieux acteurs, les acteurs qui ont beaucoup de bouteilles. Ils sont ravis de venir dans un endroit où ils se sentent si proches, c'est sensuel. Oui, je suis sûr que vous, déjà, vous êtes acquis à cette sensualité.
Évidemment. Alors moi, je connais mal le théâtre, mais je connais bien Michel Legrand, elle le chante bien. C'est difficile de chanter de
Michel
Legrand.
C'est très, très difficile.
Notamment les Demoiselles de Rochefort.
C'est vrai, c'est très difficile.
Comme chacun, ça n'était pas Françoise d'Orléac et Catherine Deneuve.
Non, bien sûr que non. Non, c'était pas...
C'est très difficile à chanter.
Très difficile, mais pas que les demoiselles, tout. On s'est aperçu que ce sont tous des chanteurs et ils connaissaient tous très bien Michel Legrand, en plus grande partie, et ils se sont aperçus que c'était beaucoup, beaucoup plus difficile qu'il n'y paraît. Parce que musicalement, c'est hyper
compliqué. C'est comme Michel Audiard, on croit que c'est facile de dire des dialogues de Michel Audiard, mais non.
C'est vrai, c'est vrai.
Il n'y en a pas beaucoup qui parviennent.
Non, c'est vrai.
Les Moulins de mon cœur aussi, ça paraîtrait... On pense qu'on peut le chanter sous sa douche, mais il y a des modulations très, très compliquées.
Alors, c'est plus facile de chanter The Windmills of My Mind, of Your Mind, qui est la version originale. Mais la version française qu'en a faite Michel Legrand, elle est très dure à chanter. Et vous aimiez Michel Legrand tous les deux?
C'est
Philippe Tesson qui vous a obligé.
Non, c'est pour ça qu'il nous a demandé à nous, je pense, parce qu'il savait qu'on adorait Michel Legrand depuis tout petit. On a été bercé Michel Legrand.
Ma fille chantait Michel Legrand avant de parler.
Et les acteurs, vous les trouvez comment? Parce que les acteurs qui savent chanter, on n'est pas à Broadway ici.
On n'est pas à Broadway, mais il y en a quand même pas mal en France, en fait. Ouais, y en a quand même pas mal. Moi, il y a certains avec qui j'avais déjà travaillé, d'autres qu'on a auditionnés, et ça s'est fait très vite aussi, quoi. Tout très très rapidement. Et puis, comme ils aiment ça, puis c'est un univers poétique. C'est plein d'amour, c'est plein de rythme, c'est plein de joie. Donc ça va vite. On a envie de travailler ça. On a envie de répéter. On n'est pas, il y a pas de prise de tête. C'est pas cérébral. C'est organique. C'est sensuel.
Puis vous allez pouvoir faire des suites si ça marche, parce qu'avec Michel Legrand, c'est fini.
On verra. Mais là, on a mis beaucoup de choses.
Je crois que c'est le seul compositeur qui est dans. Quand vous allez dans les genres, il est dans tous. Vous allez dans un magasin de livres, vous avez du Michel Legrand à la rubrique classique, à la rubrique musique brésilienne, à la rubrique jazz, à la rubrique rock, à la rubrique musique de film, bien entendu, chanson française.
Et il s'exporte beaucoup aussi.
C'est l'éclectisme vraiment Legrand, c'est impressionnant. Quoi. Et les chansons, c'est vraiment des chansons très, très sublimes, très bien écrites, très bien composées.
Et on le sait parce qu'en plus, ça a été repris par les plus grands jazzmen.
Exactement.
Ça, c'est le gage de qualité. S'ils reprennent votre chanson pour faire un morceau de jazz, ça peut y aller. Bon, vous avez une rentrée chargée, Philippe Tesson.
On a beaucoup de choses, il y a toujours beaucoup de choses. Il y a 10 spectacles par semaine ici, à peu près, entre 10 et 12 spectacles. Il y en a 4 à 5 par jour. Quand je dis qu'il y en a 10, je veux dire que sur la semaine, il y a environ une dizaine de spectacles. Par exemple, un spectacle typique tous les jours, alors celui-là, les 4 principaux, les 4 fondateurs, pour cette saison, ça va être quoi? Ça va être d'Abbeville que vous venez de voir, dans Bouquet, dans Michel Bouquet. Ça va être un Tchekhov tout à fait irrésistible de drôlerie, qui est une reprise que nous jouons déjà depuis un certain temps, qui marche très 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 bien, avec une dernier spectacle qui est Stéphane Zweig, le Marie-Antoinette de Stéphane Zweig. Ça, ce sont les quatre spectacles quotidiens jusqu'aux fêtes de Noël. Ça fait c'est assez nombreux tout ça. Ça fait une programmation assez chargée.
Merci Philippe Tesson de nous avoir emmené en balade avec vous.
C'est moi qui vous dis merci, c'est très 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 agréable. Je vous ai de temps en temps un peu charrié. je vous demande pardon, mais c'est un gage de...
Je vous en ai pas voulu, je vois ça. Je remercie le Select de nous avoir gentiment accueillis, ainsi que votre théâtre, le théâtre de Poche, et vos bureaux où nous avons commencé cette émission. Merci tous les deux et bonne chance pour la rentrée. Merci de votre attention. Je vous souhaite un très bon dimanche et on se retrouve dimanche prochain à 11h pour une autre balade.